Bonjour et bienvenue dans l'émission Écologie DFM Radio, Mission Verte. Chaque jeudi de 10h à 10h30, je suis Laurence. Vous pouvez nous écouter sur le 98 de la bande FM ou sur idfm98.fr. Merci à Francky pour la technique. Alors pour ce jeudi 30 janvier, tout d'abord un invité, Émeric Lazarin, pour son ouvrage « Renouer avec le vivant, tout commence au jardin ». C'est paru aux éditions Terre Vivante. Émeric Lazarin est lui-même ingénieur écologue, enseignant et pépiniériste, paysagiste. Puis nous retrouverons Quentin Hébrard, qui va nous parler du salon Lire la Nature qui se tient à la Fondation François Sommer. Ça a lieu ce week-end, les 1er et 2 février. Et nous retrouvons notre invité Émeric Lazarin. Bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, merci d'avoir accepté mon invitation pour parler de Renouer avec le vivant. Tout commence au jardin. C'est paru aux éditions Terre Vivante. Mais avant de parler de cet ouvrage, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots auprès de nos amis auditeurs? Vous êtes ingénieur écologue, vous enseignez, vous êtes aussi auteur?
Oui, exactement. Donc, j'enseigne l'écologie. J'enseigne aussi la gestion des espaces naturels. Et puis j'ai développé à côté une activité de pépiniériste paysagiste, ce qui me permet d'avoir un regard assez complet sur le monde végétal et sur les écosystèmes.
Et c'est pas votre premier ouvrage, je crois, qui vient de paraître.
Ouais, effectivement, j'en ai écrit quelques-uns avant, tous orientés sur les techniques de jardinage, sur l'écologie, sur le rapport au végétal.
Alors, votre ouvrage, on le rappelle, s'intitule « Renouer avec le vivant, tout commence au jardin ». On peut le dire, depuis les confinements, les gens ont voulu renouer avec la nature et notamment avec ces petits espaces verts que sont les jardins, les balcons, les terrasses.
Oui, alors c'est vrai qu'on l'a ressenti, vous avez raison, pendant le grand confinement lié au Covid. On a ce besoin irrépressible, ce besoin primaire d'être au contact de la nature. Donc on l'a ressenti, on l'a redécouvert pendant le grand confinement. Et aujourd'hui, ce qui m'a intéressé d'approfondir, c'était cette relation aux espaces naturels. Et en fait, quelle relation avec quelle nature?
Justement, votre ouvrage, il s'articule autour de quatre grands chapitres. Ce territoire connu de nature inconnue, pour un jardin refuge, agresseur car victime de mes peurs, faut-il encore concevoir son jardin? À chaque fois, vous mettez, je ne dirais pas en scène, mais vous expliquez ce regard d'aujourd'hui sur cette nature et notamment sur ces espaces que sont les jardins et à travers notamment les jeunes générations, parce que finalement, on va penser un peu à l'avenir et ces jeunes générations qui sont vraiment déconnectées.
Oui, alors il faut savoir que ce livre, c'est un peu la compilation de tout ce que j'ai observé, à la fois à travers mon activité d'enseignant, donc auprès des jeunes générations, mais aussi à travers mon activité de paysagiste, et donc auprès d'une génération parfois plus âgée, qui elle aussi, pour certains individus, qui elle aussi s'est déconnectée du jardin. Le phénomène, effectivement, a tendance à s'exacerber chez les jeunes. Au plus ils sont jeunes aujourd'hui, au plus ils sont déconnectés de la nature.
Alors, il y a d'ailleurs ce chapitre, hein, « Victime de mes peurs », on l'a dès le début, hein, parce que vous rappelez que l'être humain souffre d'un excès de prudence, d'une aseptisation de son quotidien. Or, vous le dites, hein, dès la page 19, il faut apprendre à nos enfants à ne pas avoir peur du sale, entre guillemets. Ce n'est pas la boue qui rend malade, bien au contraire, c'est l'excès de propreté.
Oui, exactement. Alors, ça a été démontré scientifiquement déjà depuis plusieurs années. La première pathologie avec laquelle on a démontré ça, c'était le rhume des foins. En fait, on s'est rendu compte que les jeunes citadins, les jeunes urbains, étaient beaucoup plus sensibles au rhume des foins que les jeunes qui avaient grandi à la campagne et qui avaient été exposés durant leur plus jeune âge au pollen. Et en fait, on a démontré que le système immunitaire est capable d'apprendre. Et donc, il est capable de se forger une certaine résistance à condition d'avoir été exposé durant les premiers mois de la vie. Voilà. Et ensuite, on l'a démontré avec le rhume des foins en premier, mais on sait aujourd'hui que c'est valable avec plein d'autres pathologies chroniques, notamment des allergies.
Vous parlez du jardin, hein, c'est le sous-titre, hein, tout commence au jardin. Mais quelle est pour vous la définition du jardin?
Alors, ça fait l'objet d'un chapitre à part entière. C'est comment on définit la nature et puis qu'est-ce que le jardin? En fait, le jardin, c'est une nature modifiée par l'homme. Aujourd'hui, on pourrait même dire que l'ensemble de la planète est jardinée, puisque tout subit l'intervention humaine. alors une intervention plus ou moins massive, plus ou moins violente selon les cas. Mais si on considère que le jardin est une nature modifiée par l'homme, alors l'ensemble de la planète est jardinée. Bien sûr, certains espaces dits naturels le sont un peu moins que les espaces verts urbains, par exemple.
Et vous, en tant que paysagiste, lorsqu'on vous demande des projets très, trop sophistiqués, trop propres, entre guillemets, vous avez ce côté pédagogue, expliquer que la nature, elle lui faut un côté friche, vous le rappelez dans l'ouvrage, un côté sauvage ou une biodiversité la plus large possible?
Oui, alors, effectivement, c'est de par ma double activité, je revendique ce côté pédagogue, y compris dans mon activité de paysagiste. Donc j'essaye vraiment de faire évoluer la commande. Quand je suis appelé pour un projet de jardin, j'essaye vraiment de faire évoluer cette commande pour intégrer davantage les équilibres naturels, la biodiversité et les relations. Parce que finalement, ce qu'on oublie trop souvent, c'est que la vie, c'est un ensemble de relations et pas seulement des êtres vivants pour ce qu'ils sont de physique. Et c'est surtout des êtres vivants qui entretiennent des relations entre eux et avec nous.
Alors, on revient sur ce côté, pour celles et ceux qui nous écoutent, qui auraient un jardin, le fameux 1% de friche. Il faudrait réserver cette partie du jardin. Expliquez-nous ce concept.
Oui, alors, l'une des principales peurs que l'on a au jardin, c'est de se faire gagner. De se faire gagner, c'est en fait de laisser une place trop importante ou de laisser s'installer une végétation qui n'inspire que méfiance finalement, qui est composée de hautes herbes, qui est composée de lianes, parfois d'arbustes épineux. Et en fait, ça c'est la friche, c'est vraiment ça qui exacerbe nos peurs et c'est vraiment ça qu'on craint. Et pourtant, moi je prends le parti de dire que la friche peut être extrêmement esthétique. En plus d'être un refuge de biodiversité, une oasis de biodiversité, je trouve, vraiment sincèrement en plus, que la friche peut être esthétique, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser comme une technique paysagère à part entière. Et pour ce faire, je propose qu'on laisse s'installer un petit peu de friche, chacun dans son jardin.
Et de la même manière, hein, vous dites qu'il faut contribuer aux inventaires de biodiversité. Là, ce serait l'occasion d'aller voir ce qui s'y cache, qui loge, s'y nourrit. C'est aussi une manière de participer à l'effort collectif, comme disait Pierre Rabhi.
Oui, exactement. Alors, on peut participer aux inventaires de biodiversité qui sont menés à l'échelle communale ou intercommunale, mais on peut aussi décider, chacun dans son jardin, de faire un petit inventaire pour se rendre compte, pour découvrir de ce qui y vit. Et on n'est pas à l'abri de très bonnes surprises. En fait, on se rend compte qu'on ignore bien souvent ce qui se développe et ce qui vit juste à côté de nous, au pas de notre porte ou sous nos fenêtres, en fait.
Alors, il y a aussi ce côté jardin exotique, vous en parlez, tropical. On se dit que c'est comme c'est un espace très différent, peut-être à protéger, ce serait un exemple à suivre. Or non, il faut garder un peu le patrimoine qu'on a déjà localement et éviter peut-être d'importer des plantes qui ne pourraient pas s'adapter ou au contraire pourraient devenir invasives.
Oui, alors là, il faut être prudent justement parce que bon, j'ai absolument rien contre les végétaux exotiques, ce qui vient d'ailleurs, etc. C'est vraiment un enrichissement intéressant. Par contre, on a toujours cette tendance à courir après ce qui vient de loin, ce qui est exotique, et on cherche. En fait, on rentre dans une surenchère, mais toujours plus exotique. Et je trouve que cette surenchère, elle peut être dangereuse, justement parce qu'elle met en péril la biodiversité locale. Qu'on sous-évalue.
Et justement, vous donnez des conseils très très pratiques sur le côté de rendre vertueux son jardin, plus sauvage, plus respectueux. Et il y a même toujours des conseils, c'est souvent en vert hein, pour la topographie de vos ouvrages, et c'est notamment la gestion par tiers. Vous donnez beaucoup de conseils pratiques et j'ai découvert cette technique qui paraît évidente lorsque on la lit. C'est par exemple si on nettoie sa mare parce qu'elle s'est un peu envasée avec les années, eh bien il faut éviter de faire tout d'un coup parce que l'endroit va devenir presque stérile parce que c'est trop violent comme modification.
Exactement. En fait, la gestion par tiers, bon, c'est une proposition de gestion. Hein, ça, Je suis pas sûr que ça a été validé par mes pairs, mais en tout cas, ça part du principe que tous les chantiers d'entretien d'un jardin, au plus ils sont radicaux et au plus ils sont néfastes pour la biodiversité. Et on s'en rend compte quand on tend une pelouse aussi. Mmh. Au lieu de tendre l'intégralité de la pelouse une seule fois, et donc de passer d'une herbe haute à une herbe rase en quelques dizaines de minutes, je propose qu'on étale cette tente de pelouse en trois fois, par exemple, d'où la gestion parterre, ce qui nous permettrait d'avoir trois stades de pelouse différents, et donc à la faune de s'adapter, de pouvoir migrer d'une herbe rase à une herbe haute ou inversement, et donc de pas mettre en péril tout le monde en quelques dizaines de minutes, de laisser le temps en fait à la biodiversité de s'adapter.
Mais on peut penser dans l'agriculture à un terrain en jachère qu'on laisse reposer une fois tous les trois ans, je crois, quelque chose comme ça. C'est un peu dans le même esprit.
Oui, voilà. En fait, c'est ne pas passer du tout au rien en quelques minutes. C'est rajouter des étapes et du coup rajouter du temps à la biodiversité pour s'adapter.
Alors, on découvre aussi, on rappelle le titre, hein, Renouer avec le vivant, tout commence au jardin, que tout commence au jardin, et cela depuis l'époque paléolithique. Rappelez-nous ces forêts-jardins.
Oui, alors en fait, on revient là à l'histoire du jardinage, c'est-à-dire que les premiers hominidés au moment du paléolithique s'est bien rendu compte que certains arbres, certains végétaux donnaient des fruits ou des feuilles ou des racines plus appétantes que d'autres. Et du coup, ils avaient déjà opéré une forme, ce qu'on appelle l'amélioration de leur écosystème, où ils cherchaient à favoriser les végétaux les meilleurs au goût. Et du coup, ils favorisaient leur développement, ils favorisaient leur multiplication. C'était l'une des premières formes de jardinage, finalement.
Et on peut dire aussi que lorsqu'on a des voisins, c'est l'occasion de partager.
Oui, alors là, bon, ça sera peut-être un peu utopique pour certains, parce que je sais que le jardin est quand même source de conflits parfois entre voisins. Mais justement, je fais le rêve d'un jardin qui réunisse les voisins plutôt que de les diviser. Et effectivement, autour d'un troc de graines, autour d'un échange de pratiques, je pense que le jardin, il peut être aussi lieu de rencontre.
Et ce dont vous parlez, c'est peut-être le fameux jardin tentaculaire, celui qui remplirait les cités, qui ne ferait plus de frontières entre la campagne et les grandes villes.
Exactement. Pour moi, les jardins, ils permettent à la nature et à la biodiversité sauvage de pénétrer au cœur des villes à travers les éléments du jardin, les haies, les pelouses. Pour moi, il faut décloisonner les jardins pour permettre à l'ensemble des êtres vivants de pouvoir circuler.
Et de la même manière, hein, vous évoquez ces fameux arbres plantés au milieu d'une cour de récréation. Il est seul, unique, ce qui n'a presque pas de sens. Il y a tout un très beau chapitre à ce sujet sur les arbres, le climat, ce qu'il apporte et les mauvaises pratiques qu'on a pu avoir par le passé, qu'il faut essayer de repenser, notamment en ville où, on rappelle, hein, les arbres, c'est un apport à la fois d'eau quand on est en zone très sèche, mais aussi d'ombrage, un climat qui devient plus doux. C'est une partie très intéressante car au final chacun peut avoir là encore sa part dans cette nature, dans son jardin, savoir quoi planter intelligemment pour avoir un environnement à la fois plus sain et plus beau et plus en harmonie avec ce milieu, cette biodiversité. C'est très intéressant cet ouvrage, Renouer avec le vivant, tout commence au jardin. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? C'est à glisser entre toutes les mains de jeunes et moins jeunes qui ont un jardin ou un espace vert autour de chez eux.
Oui, alors tous les propriétaires de jardins, mais aussi tous ceux qui veulent poser un autre regard sur la nature et sur les équilibres de la vie sur Terre.
Oui, parce qu'on rappelle, hein, vous évoquez vraiment tous les milieux, la ville, la campagne, et puis celles et ceux qui veulent investir, entre guillemets, une réflexion ou des pratiques sur l'environnement, notamment auprès des plus jeunes, hein, qui, on le rappelle, autant ils sont très connectés sur les écrans et complètement déconnectés à la nature. C'est formidable, c'est renouer avec le vivant, tout commence au jardin. Les illustrations sont magnifiques, je ne sais pas de qui elles sont, mais c'est vraiment... On plonge littéralement dans ces illustrations. Vous pouvez peut-être nous donner l'auteur ? ou vous
Oui, alors Arthur Attila, c'est un dessinateur qui travaille avec la maison d'édition Terre Vivante et que je remercie parce que c'est lui qui est force de proposition à la lecture du texte. C'est lui qui propose les illustrations qui sont effectivement magnifiques. Ouais.
Et on retrouve cette biodiversité qu'on peut avoir au jardin, que ce soit des insectes, des fleurs, des arbres, et puis des jardiniers. Alors soit, par exemple, un outil à la main comme page 46, ou au contraire, qui se prélasse dans sa hamac un peu plus loin. C'est aussi ça le jardin, hein. Ça peut être du travail, et encore, beaucoup de professionnels, entre guillemets, ou amateurs éclairés de permaculture nous expliquent que le jardin, ça peut être au contraire, moins on en fait, mieux le jardin se porte. C'est aussi un lieu où on peut observer, se détendre, renouer donc avec la nature en mettant les mains dans la terre. Et c'est ce qu'on retrouve et dans votre écrit et dans ces très jolies illustrations dont la couverture elle-même, c'est une jeune fille qui tient des légumes avec un panier qui retourne vers la maison où on voit cette biodiversité et cette richesse à la fois de la faune et de la flore. On voit un hérisson au premier plan, peut-être une salamandre beaucoup de choses, beaucoup de détails dans ces illustrations qui font à la fois voyager dans le jardin, et on attend évidemment le printemps avec impatience parce que le jardin c'est aussi un lieu dont on profite le plus au beau jour avec le printemps, l'été.
Oui, oui, bien sûr. Et puis donc c'est pour se reconnecter avec le vivant, mais c'est aussi se reconnecter avec soi-même. Et donc le jardin, comme vous le disiez, c'est un lieu de travail, mais c'est surtout un lieu de méditation, un lieu de réflexion où on fait un gros travail spirituel.
Oui, on parle beaucoup de la santé mentale en ce moment à cause des écrans, les choses que l'on peut lire qui peuvent rendre les gens malades dans le sens la charge mentale. Or là, lorsqu'on va dans la nature, au contraire, hein, on s'ouvre, on respire et on s'aère vraiment l'esprit dans tous les sens du terme.
Exactement, et puis il faut pas hésiter à laisser tous ces sens en éveil, vraiment à écouter ce qu'on perçoit, à écouter pas seulement avec les oreilles, à écouter en tout cas à recevoir, à accueillir tout ce que nos sens nous envoient.
Et on rappelle, dans notre époque où tout va vite, vous vous rappelez sur différents chapitres qu'il faut revenir au temps long, réconcilier le jardin avec le temps qui passe, le fameux dieu Chronos hein, qui nous poursuit. Et là encore, hein, c'est aussi une manière de se rappeler que comme la nature, où l'on vit, où l'on meurt, il faut prendre le temps et justement, c'est l'occasion, grâce à votre ouvrage, de renouer avec le vivant pour prendre le temps de vivre et le temps de bien vivre avec cet environnement. Merci encore à vous, Émeric Lazarin. On rappelle, Renouer avec le vivant, tout commence au jardin. C'est paru aux éditions Terre Vivante. On peut retrouver des informations sur ce livre en allant sur le site terrevivante.org. Je ne sais pas si vous, on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux.
Oui, alors je ne suis pas très présent, pas très actif. Mais je suis sur LinkedIn et effectivement, je répondrai à qui veut m'interpeller. Oui.
Eh bien, c'est noté. Merci à vous, Émeric Lazarin. Et on vous souhaite de très belles choses avec cet ouvrage Renouer avec le vivant. Tout commence au jardin. Au revoir.
IDFM Radio, 98 FM.
Et nous retrouvons Quentin Hébrard. Bonjour.
Bonjour.
Vous travaillez à la Fondation François Sommer, mais particulièrement à un salon. Ce salon, c'est Lire la Nature. Et pour cette 7e édition, on a un programme assez incroyable. Mais tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter auprès de nos amis auditeurs?
Oui, je suis secrétaire du prix littéraire François Sommer, qui est un prix créé en 1980 et qui rend hommage chaque année en désignant un auteur qui a écrit sur la nature, un roman ou un essai. Et je suis aussi en charge du salon du livre Lire la Nature.
On s'était déjà eu au téléphone il y a un petit moment et vous nous revenez parce que on rappelle, hein, c'est déjà la 7e édition. Autant dire que c'est un vrai succès auprès des professionnels de l'édition, mais également auprès du public.
Oui, c'est vrai que c'est un salon maintenant qui a sa 7e édition. On accueille chaque année 2300 personnes. On peut pas plus parce qu'on est ça se passe dans un petit musée, notre petit musée du chasse et de la nature, qui est un musée d'art contemporain situé à Paris. Oui, c'est un salon du livre qui a pris de plus en plus d'ampleur. On a de plus en plus d'éditeurs maintenant qui reconnaissent ce salon du livre, qui y viennent, de plus en plus d'auteurs. On en a 35 cette année encore. Parmi eux, des chercheurs, des romanciers, des essayistes, des philosophes. C'est vraiment un lieu, voilà, où on parle de la nature sous toutes ses formes, sous toutes ses coutures, et on essaye, d'aller plus loin et de débattre.
Oui, on rappelle, c'est les 1er et 2 février, avec comme thème biodiversité ordinaire, nature extraordinaire, point d'exclamation. Et ce salon, donc, c'est les 1er et 2 février, de 10h à 19h. Vous disiez tout à l'heure, c'est au musée de la chasse et de la nature. Pour celles et ceux qui connaissent Paris, c'est dans le 3e. Pour ceux qui connaissent un peu moins, c'est au 62 rue des Archives. L'entrée est libre et gratuite. Néanmoins, on le rappelle, vous le disiez tout à l'heure, c'est un espace assez restreint. Donc, celles et ceux qui souhaitent participer aux rencontres, y assister, vaut mieux réserver en ligne.
Et voilà, c'est la particularité cette année. Pour les grands entretiens et certaines rencontres débats, vous verrez, tout est sur notre site internet fondationfrançoissommer.org. En effet, c'est mieux de réserver. Voilà, on conseille la réservation pour être sûr d'avoir sa place parce qu'on va avoir une forte affluence, on espère.
Alors justement, parmi ces grands noms qui seront présents, on peut citer certains, comme l'anthropologue et auteur Charles Stepanov, je vais pas dire de bêtises, dont on doit attachement aux éditions La Découverte. Il y a aussi d'autres noms, notamment Gaspard Koenig, Jean-Christophe Bailly, des auteurs venus de l'étranger, comme l'autrice américaine Jean England. Là encore, c'est important de montrer toute la diversité autour de cette thématique.
Tout à fait, vous venez de citer quelques grands noms. Jean Aiglon, en effet, qui est connu par les gens qui lisent, parmi vos auditeurs, qui avait dans les années 90 un best-seller qui s'appelait Dans la forêt, qui a été repris au cinéma. Carole Martinez aussi, qui est le prix Goncourt 2011, qui a ressorti un livre cette année, D'or ton sommeil, de Brut chez Gallimard, totalement magnifique sur l'environnement et le changement climatique. On a l'explorateur Cédric Gras, vraiment on a une quarantaine d'auteurs, donc on ne peut pas tous les citer. Mais vraiment, c'est ce qui fait la force de ce salon et sa rareté, j'ai envie de dire, c'est qu'on réunit vraiment au même endroit pendant 2 jours des auteurs qui parlent de la nature, mais vraiment sous toutes ses facettes. Ça va vraiment de l'anthropologie, en effet, vous l'avez dit avec Stepanov, qui a été aussi prix France Culture en 2021 et prix François Sommer en 2021. Donc voilà, ça fait vraiment des tables rondes d'une heure, on prend le temps de parler, loin des sentiers battus, on écoute des gens qui pensent, qui rêvent, qui réfléchissent sur la nature, et surtout, ce qui est assez rare, c'est qu'on les met ensemble, et on fait parfois converser des chercheurs et des historiens, des gens qui parlent pas forcément, et voilà, c'est ce qui fait un côté multidisciplinaire qui a fait tout le succès de ce salon.
Et on a aussi la chance d'avoir des animations pour les plus jeunes, car toutes les familles, tout le monde est invité, des jeunes et moins jeunes générations, avec notamment dimanche, il y aura une grande dictée à 11h30.
Tout à fait, à 11h30, une grande dictée. Et puis tout au long du week-end, voilà, on fait des ateliers pour les enfants. Alors les places sont assez, en général, c'est 11, 12 enfants, 15 enfants, ça dépend. Les parents peuvent venir. C'est pareil, des illustrateurs et des auteurs jeunesse, autrices aussi, qui viennent faire des ateliers autour de la biodiversité ordinaire, autour de la nature. Vous avez des petits jeux à faire, des ateliers. Les enfants peuvent revenir avec des créations. Ça permet de passer un week-end sympa en famille. Et c'est gratuit, mais il faut réserver sur place pour les ateliers enfants. On a un système de réservation sur place.
Puis aussi, c'est l'occasion de les sensibiliser à l'environnement, à tous ces chercheurs, à tous ces auteurs qui font réfléchir sur notre société et sur la manière dont on gère la nature.
C'est ça, et en s'amusant.
Voilà, exactement. Alors, on rappelle, c'est gratuit. C'est les 1er et 2 février, dans le 3e à Paris, au musée. 35 auteurs invités, des rencontres, des débats, des animations pour tous, des lectures et j'ai lu même des performances.
Oui, en effet, on a une troupe d'auteurs qui viendra, c'est un peu la surprise, qui viendra faire déclamer des textes, on peut croiser un peu au hasard du musée. Ils viennent lire des textes, ils viennent annoncer le programme, un peu comme des crieurs à l'ancienne, ça sera très amusant. Et il y aura aussi l'occasion de suivre une projection d'un documentaire le samedi à 18h. Ça roule, histoire d'une transmission culturelle qui suit en fait un chercheur qui étudie au Japon les macaques. Et on réalise que ces macaques ont des comportements très particuliers, un peu comme les humains. Ils jouent de la musique, ils se baignent dans les bains chauds, les fameux onsen.
Ah oui.
Finalement, à ce documentaire, on change un peu de regard sur ce qu'est la culture chez les animaux.
On le rappelle, ce salon, c'est le rendez-vous incontournable de ce début d'année, le salon du livre autour de la nature, lire la nature, les 1er et 2 février de 10h à 19h au musée de la chasse et de la nature qui se trouve au 62 rue des Archives dans le 3e, entrée libre gratuite, on le rappelle. Mais néanmoins, c'est plus simple d'aller se renseigner sur le site fondationfrançoissommer.org pour s'inscrire, car il y a de très nombreuses animations, rencontres, débats où le nombre est limité. Un vrai rendez-vous à ne pas rater, Quentin Hébrard. Et on se dit quoi, à l'année prochaine pour une 8e édition?
Alors on aimerait beaucoup, mais avant cela, j'aimerais juste rajouter qu'il y a peut-être deux choses qui pourraient intéresser vos auditeurs. C'est que vraiment pendant 2 jours, ce musée, qui est un musée labellisé Musée de France, tutoré par le ministère de la Culture, est ouvert et gratuit. Donc les gens peuvent vraiment aussi en profiter, au-delà des conférences, pour visiter ce très très beau musée qui a un petit écrin perdu dans le marais, vous l'avez dit, assez intimiste et très beau. Et notamment la nouvelle exposition d'art contemporain d'Eddy Dubien, qui est un dessinateur. Le nom de cette exposition, c'est « S'éclairer sans fin ». Vous pourrez voir près de 200 dessins d'animaux et d'enfants. C'est un dessinateur, c'est un artiste qui vraiment travaille beaucoup sur le lien entre l'enfance et l'animal. C'est très poignant, très troublant. On sent à travers ses dessins beaucoup de liens par rapport aux violences qu'il a subies. C'est un artiste vraiment autodidacte et qui va beaucoup faire parler de lui encore. Donc voilà, c'est l'occasion de découvrir cette belle exposition et aussi des salles qui d'ordinaire sont fermées au public. Ah. En effet, la Fondation François Sommer détient, on va dire, avec la mairie de Paris, 2 hôtels particuliers au cœur du Marais qui sont vraiment des petits bijoux à découvrir. Et pendant ce salon, c'est le seul moment de l'année où le grand public peut découvrir certaines salles fermées au public, comme le grand salon, c'est là où se dérouleront certaines conférences, ou même l'escalier Mansart, qui est un escalier extrêmement rare et très beau architecturalement, du grand architecte éponyme. Donc vraiment, voilà, c'est aussi 2 bonnes raisons de venir, c'est de se faire un week-end aussi au cœur du patrimoine de notre beau pays.
Et c'est vraiment un moment, quelques jours avant les vacances, l'occasion de se retrouver en famille, rencontrer des auteurs, des scientifiques et découvrir, comme vous dites, des petites pépites architecturales de la ville de Paris. Et c'est gratuit, on le rappelle. Lire la nature, c'est le nom de ce salon du livre. C'est sa 7e édition. Merci à vous, Quentin Hébrard. Et puis on vous souhaite un très bon salon à la Fondation François Sommer et à tous les invités auteurs, scientifiques et au public qui, j'espère, se rendra nombreux les 1er et 2 février. À bientôt.
Merci beaucoup, à bientôt.
Merci, au revoir.
IDFM Radio 98 FM.
Et nous arrivons au terme de l'émission. Alors pour moi, de vous rappeler que nous étions en tout début d'émission avec Émeric Lazarin pour son ouvrage « Renouer avec le vivant, tout commence au jardin » que vous pouvez retrouver aux éditions Terre Vivante. Et n'oubliez pas ce week-end, le salon « Lire la nature », c'est à Paris et c'est gratuit. On se quitte comme chaque fois par la citation de Charles Darwin « Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux au changement. » On va méditer dessus. Merci à Francky pour la réalisation de l'émission. Je vous souhaite une excellente journée sur les ondes d'IDFM Radio. Merci encore pour votre fidélité et je vous dis à jeudi prochain, même heure, même endroit. Au revoir.
Écoutez IDFM Radio où que vous soyez via l'appli IDFM Radio et sur idfm98.fr. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo and so much.
IDFM Radio, 98 FM.
Now we found our home in a world gone.
Vous êtes bien sur IDFM Radio.
T'as péché bien souvent, par manque de foi en toi, en tes perles et devant de concert, ces choses-là vont de soi. Il n'était une minute sans qu'Allah fût une cache, en ligne de fuite ce qui fâche. D'un trait comme ça te mets les chemins de traverse, le long des tours de vie l'ivresse, la solitude et sa noblesse. Oh, 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 te mets la nuit quand se disperse Nancy dans le long silence, et tout autour le vide qui blesse de temps en temps. Ça n'a pas d'allure, la vie n'est jamais une sinécure. Mais t'as connu pire vent, t'es parti comme t'as vécu, rebelle, fier, libre et sans attache. Fragment de rire, éclat de vie, de temps en temps te mets les chemins de traverse, le long des tours de vie l'ivresse, de solitude et sa noblesse. Silence, et tout autour le vide qui blesse de temps en temps. De traverse, les longs détours de vie l'ivresse, la solitude et sa noblesse. Oh, 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 tu mets la nuit quand se disperse, l'enchine en le long silence, et tout autour le vide qui blesse. Oh, 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 tu mets les chemins de traverse, les longs détours de vie l'ivresse, la solitude et sa noblesse. Se disperse, l'enchine en le long silence, et tout autour le vide qui blesse de temps en temps.
So
IDFM Radio sur le 98FM et en DAB+.
IDFM Radio, bien plus qu'une radio.
Et un fou au volant de la voiture, il tourne à droite, maman très à droite. Et un fou au volant de la voiture, il tourne à droite, il tourne à droite dur. Et un fou dans la voiture, et il tient le volant, il tourne à droite, il tourne à droite dur. Maman et un fou dans la voiture, et il tient le volant, il tourne à droite, il tourne à droite, il tourne à droite dur. C'est pas de la maladresse, ça se voit que c'est pas de la maladresse. C'est le mal, est-ce que c'est le mal? C'est le mal, est-ce que c'est le mal ça? C'est le mal, ou c'est le mal? Est-ce que c'est le mal ça? C'est pas de la maladresse. Dubaï n'est pas le paradis. Les stars ne sont pas sympathiques. Pas besoin de tout le temps paradis. L'enfer n'est pas le paradis. Où est le paradis? Casino gagne toujours à la fin. Les puissants veulent garder tout ce qu'ils ont. On se fait manger par des images. T'as pas besoin de la doudoune Prada. Et un fou au volant de la voiture. Il tourne à droite, maman très à droite. Et un fou au volant de la voiture. Il tourne à droite, il tourne à droite dur. Et un fou dans la voiture, il tient le volant. Il tourne à droite, il tourne à droite dur. Maman, et un fou dans la voiture, il tient le volant. Il tourne à droite, il tourne à droite dur. Maman, c'est pas de la maladresse. Ça se voit que c'est pas de la maladresse.
IDFM Radio, le média valdoisien. I was in a sheer dress the day that we met. We were both in a rush, we talked for a sec. You friended me up so we could connect. And what are the odds? You sent me a text and now the next thing I know I'm like manifest. Oversized, I digress. Got me scrolling like out of breath. Got me going like, ooh, who's the cute boy with the white jacket and the thick accent? Like, ooh, maybe it's all in my head, but I bet we'd have really good back. Said you're not in my time zone, but you wanna be. Where art thou? Why not upon with me? See it in my mind, let's fulfill the prophecy. It's the cute guy with the wide blue eyes and the big bad night. I know it's gonna be redundant, but I bet we'd have really good back. How you pick me up, pull it down, tell me wrong, no, it just makes sense. And you talk so sweet when you're doing that.
Tendre bise de l'enfer, j'irai jusqu'en enfer, jouer avec mes braises.
Le sourire aux lèvres, ouais. Ok, ça fait mal, mais ça commence à me plaire. J'ai avoué tous mes péchés, rien de très maléfique. Faire le danger, crois-moi, tout est magnifique. J'aime bien ce qui brille, rien ne brille autant qu'une flamme. Tu verras, c'est pas grand-chose. Derrière les ténèbres s'illuminent des milliards d'étoiles. Pendant que la terre explose, les pensées se mélangent au fond de mon âme. Le feu me fait crépiter la peau de chaque toit. Enfin, je ressens les effets. J'ai la tête qui commence à tourner.
Oh, 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 tendre bise de l'enfer. J'irai jusqu'en enfer, jouer avec les braises. Oh, oh, tendre bise de l'enfer. Oh, oh, tendre bise de l'enfer. J'irai jusqu'en enfer, jouer avec les braises. Oh, oh, tendre bise de l'enfer.
En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM et en DAB+.
Their lives again. Their lives again. Their lives again. Their lives again.
En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98FM et en DAB+.
Bonjour, retrouvez-nous sur IDFM Radio tous les vendredis de 18h à 19h avec toute la culture que j'aime.
Toute la culture que j'aime, c'est votre rendez-vous avec Marie-Laure
et Agnès
en alternance le vendredi de 18h à 19h. Nous partagerons nos coups de cœur.
Théâtre, littérature, musique, sorties.
Toute la culture que j'aime, c'est le vendredi de 18h à 19h sur IDFM Radio.